Chapitre 19. Des affaires de tôt. Rand s'était dit qu'il dormirait bien cette nuit-là. Presque assez fatigué pour oublier Alana, il était en plus débarrassé d'Avienda, resté dans le camp des Aiel avec les matriarches. En l'absence de cette femme qui se déshabillait devant lui sans vergogne, et sans le bruit de sa respiration pour le perturber, sûr qu'il se reposerait comme un nouveau-né. Hélas, il y eut quand même quelque chose pour le déranger. Les rêves. Afin d'en tenir éloignés les rejetés et les matriarches, Rand protégeait toujours ses songes. Mais les tissages ne pouvaient rien contre ce qui était déjà à l'intérieur de sa tête. Il rêva de grandes créatures blanches aux ailes d'oiseaux, mais qui n'étaient pas des oiseaux, sillonnant le ciel bleu, et de mégalopoles aux bâtiments incroyablement hauts, des silhouettes semblables à des scarabées et à des gouttes d'eau aplaties grouillant dans leurs rues. Des images qu'il avait déjà vues, en fait, dans le grand Terangréal de Ruidéane, là où il avait gagné les dragons qui couvraient désormais ses bras. C'était des visions de l'âge des légendes, il le savait. Mais cette fois, tout était différent, les couleurs paraissant fausses. Comme si ses yeux étaient frappés d'une quelconque maladie. Les ailes chaudes tombaient en piqué, chacune entraînant des centaines de passagers vers la mort. Les bâtiments explosaient comme s'ils étaient en verre, les cités entières brûlaient et la terre se soulevait comme un océan en pleine tempête. Régulièrement, Rand se retrouvait face à une splendide femme aux cheveux blonds, voyant l'amour qui exprimait son visage se transformer en pure terreur. Une part de lui-même connaissait cette beauté et désirait la sauver, du ténébreux, de toutes les menaces et de ce qu'il s'apprêtait lui-même à faire. Il existait tant de parts de lui-même, un esprit explosant en éclats, et toutes hurlaient à la mort. Il se réveilla dans le noir, tremblant et ruisselant de sueur. Les rêves de Loustérine. Ça ne s'était jamais produit. Jusque-là, il n'était pas arrivé qu'il fasse les songes d'un autre. Effrayé à l'idée de fermer les yeux, Rand attendit le lever du soleil, le regard perdu dans le vide. Comme s'il pouvait s'en servir contre un mort, il se lia au Saïdin, mais Loustérine ne se manifesta pas. Lorsqu'une pâle lumière filtra des fenêtres, un Guy Shine entra dans la pièce, avec sur les bras un plateau recouvert d'une serviette. Voyant que Rand était réveillé, il ne dit pas un mot, posa son fardeau, s'inclina et sortit promptement. Les sens exacerbés par le pouvoir, Rand sentit l'odeur d'une infusion au baies, du pain frais, du beurre, du miel et de la bouillie de flocons d'avoine chaude que les aïels mangeaient volontiers le matin. Se coupant de la source, il s'habilla et boucla son ceinturon. Sans appétit, il ne souleva même pas la serviette qui couvrait son petit déjeuner. Le sceptre du dragon au creux d'un bras, il sortit de ses appartements. Les promises étaient de retour dans le couloir, soulignent à leur tête, ainsi qu'Ourienne et ses boucliers rouges. Mais les gardes Aiel n'étaient pas seuls. Le corridor grouillait de monde, certaines personnes ayant réussi à franchir le périmètre de sécurité. Avienda se tenait au milieu d'une délégation de matriarches, Amis, Beir, Melaine, Sorilea, bien entendu, Chailin, une Nyagoma du clan de l'eau fumée aux cheveux roux déjà grisonnants, et Edara, une Chiande Neder qui semblait à peine plus âgée que lui, même si ses yeux bleus exprimaient une équanimité en apparence inébranlable qui renforçait son aura d'autorité, au moins égale à celle de ses collègues. Berelein était là aussi. Pas Rouark, en revanche, ni aucun des autres chefs de tribu. Rand leur avait dit tout ce qu'il entendait leur dire, et les Aiel n'étaient pas du genre à perdre leur temps. Mais dans ce cas, que fichaient ici les matriarches? Et la première dame? Du coin de l'œil, Rand nota que la robe blanc et vert qu'elle portait avait un décolleté des plus agréables. Des Kairieniens se tenaient derrière la masse compacte d'Aiel. Bien entendu, il y avait là Dame Colavaere, dans la fleur de l'âge et superbement belle, avec ses cheveux noirs bouclés coiffés en une sorte de tour et sa robe aux rayures horizontales plus nombreuses que celles de tous les autres nobles présents. Un signe de son importance dans la hiérarchie du Kairienne. Le devant du front rasé, à la façon des soldats, le seigneur Dobraine portait comme d'habitude une veste usée aux endroits où frottaient les sangles de son plastron. Ses cheveux blancs tombant sur les épaules, le dos toujours parfaitement droit, Maringil arborait une longue veste de soie noire, ornée de rayures horizontales presque jusqu'aux genoux, et assez somptueuse pour convenir à une soirée de gala. Une vingtaine d'autres nobles, mineurs à en juger par leur peu de rayures, des hommes et des femmes plus jeunes que Colavaere et les deux autres, se tenaient un peu en arrière.
« Que la grâce soit sur le seigneur dragon !»
murmurèrent-ils en s'inclinant, une main sur le cœur.
« La grâce nous honore de sa présence. »
Le contingent de Théariens était exclusivement composé de hautes dames et de hauts seigneurs, tous resplendissant dans leurs plus beaux atours. Vestes de soie aux manches bouffantes à bandes de satin et chapeaux pointus de velours pour les hommes. Et pour les femmes, robes brillantes à fraises de dentelle et coiffes ajustées ornées de perles ou de gemmes.
La lumière brille sur le dragon réincarné!
Lancèrent ces Théariens, Meylan se tenant au premier rang, bien entendu. Un homme à la barbe pointue, mince, dur et au visage inexpressif. Un demi-pas derrière lui, la haute dame Fionda faisait grise mine, une maussaderie qui, bizarrement, n'entachait en rien sa beauté. Tandis que les sourires hypocrites de la fine Anaïella, au contraire, faisaient de l'ombre à la sienne. Ses yeux bleus le signalant comme un oiseau rare parmi les Théariens, Marakon ne souriait pas davantage que le chauve Gayam ou Karakom, qui semblait deux fois plus svelte à côté de son replet compagnon, mais certainement pas deux fois moins solide. Ces deux hauts seigneurs, ainsi que Meylan, avaient été très proches de Éarn et Simahan. La veille, Rand n'avait pas mentionné ces deux-là, ni leur trahison. Mais à coup sûr, on en avait eu vent ici. Et tout aussi sûrement, chacun des trois Théariens interprétait son silence en fonction de son propre état d'esprit. Depuis qu'ils étaient à Caerienne, ils s'étaient accoutumés à une certaine forme d'insécurité, et ce matin, ils regardaient Rand comme s'il allait soudain ordonner qu'on les arrête. À dire vrai, tout le monde surveillait tout le monde dans ce couloir. Tous les nobles lorgnaient les aïeuls d'un œil mauvais, et sans toujours dissimuler très bien leur colère. Berelaine avait droit à une attention au moins équivalente. À sa grande surprise, Rand constata que les hommes, et même les Théariens, la considéraient avec plus de suspicion que de concupiscence. Bien entendu, le dragon réincarné était le principal objet de curiosité. Rien de plus normal, sachant qui il était et ce qu'il était. Le regard glacial de Colavere passait sans cesse de Rand à Avienda, et là, il s'échauffait quelque peu. Une rancune tenace, semblait-il, même si Avienda semblait avoir tout oublié. Dame Colavere, elle, n'était sûrement pas prête d'oublier la correction que Layel lui avait flanquée après l'avoir découverte dans la chambre de Rand, d'autant moins que sa mésaventure était désormais de notoriété publique. Comme toujours, Meylan et Maringill évitaient si ostensiblement de se regarder qu'un enfant aurait deviné à quel point ils se souciaient l'un de l'autre, et pas dans le registre de la bienveillance. Tous deux voulaient le trône de Caerienne, et chacun tenait l'autre pour son principal rival. Dobrein, lui, surveillait Meylan et Maringill. Pourquoi ? Eh bien, ça, lui seul le savait. Meylan étudiait Rand. Sorilea dévisageait Meylan et Avienda contemplait le sol. Parmi les Caerieniens, une femme aux grands yeux, les cheveux cascadant sur les épaules et non dressés sur sa tête comme une pièce montée, portait une robe d'équitation sombre ornée de 6 rayures seulement et une épée battait sa hanche. Quand il la regardait, la plupart de ses compagnons ne prenaient pas la peine de cacher leur condescendance. Ne semblant pas s'en formaliser, la femme étudia alternativement les promises, avec une fervente admiration, et le seigneur dragon, avec une tout aussi vibrante appréhension. Rand n'avait pas oublié cette jeune beauté. Nommée Céland, elle avait appartenu au bataillon de charme que Dame Colavere avait lancé à l'assaut du dragon réincarné, avec l'espoir de le prendre dans ses filets. Non sans peine, il avait convaincu la gente dame que son plan ne fonctionnerait pas. Et sans qu'il le lui ait demandé, Avienda lui avait donné un sacré coup de main, un rien trop vigoureux cependant. Avec un peu de chance, Colavere le craignait trop pour se venger d'Avienda et risquer ainsi de s'exposer à son courroux. En revanche, il aurait aimé persuader Céland qu'elle n'avait rien à craindre de lui.
« Il ne peut pas plaire à tout le monde », lui avait dit un jour Moiraine.
« Ni consoler tout un chacun. »
Une femme de tête. Comme de juste, les promises et les boucliers rouges surveillaient tout le monde, à part bien entendu les matriarches, et Berelaine, bizarrement. En principe, il se méfiait de tous les habitants des Terres Mouillées, mais la première dame aurait tout aussi bien pu être une matriarche parmi les autres.
« Vous m'honorez tous, »
dit Rand en espérant ne pas être trop laconique. « De nouveau en représentation. » Au fait, où était Egwene ? Sans doute occupée à faire la grasse matinée. Un moment, il envisagea d'aller la voir et de faire un ultime effort pour... Non, inutile. Si elle ne voulait rien lui dire, il ne pourrait pas la faire changer d'avis. Pour une fois qu'être Taveren aurait pu lui servir, voilà que ça ne fonctionnait pas.
« Hélas, je ne vais pas pouvoir m'entretenir avec vous ce matin, car je dois retourner à Kaemlyn. »
La priorité, c'était en effet le royaume d'Andorre. Et Samael, bien sûr.
« Vos ordres vont être exécutés, seigneur dragon. »
dit Berelaine.
« Ce matin, afin que vous puissiez être témoin de l'événement. »«
Mes ordres ? Et quel événement ?
L'exécution de Manjin. On lui a annoncé l'heure il y a peu.
Si la plupart des matriarches affichaient une prudente neutralité, Beir et Sorilea ne cachaient pas leur désapprobation. Étrangement, elles regardaient Berylaine.
« Je n'ai aucune intention d'être là chaque fois qu'on prend un meurtrier. »
dit Rand très froid. En réalité, il avait oublié, ou plutôt chassé l'affaire de son esprit. Faire pendre un homme qu'on appréciait, presque un ami, n'était pas le genre de décision dont on aimait se souvenir. Lors de leur conversation, Rouark et les autres chefs n'avaient même pas fait allusion à cette triste affaire. De plus, Rand refusait que cette exécution apparaisse comme un événement particulier. Comme tous les autres, les Aiel devaient respecter la loi. Il fallait que les Kairieniens et les Théariens le sachent, comprenant ainsi qu'ils ne favorisaient personne et qu'il n'y avait rien à espérer dans ce domaine-là.
« Tu fais vraiment flèche de tout bois, » songea Rand, l'estomac retourné.
Une pensée vraiment à lui ? Eh bien, il l'espérait. De toute façon, il n'avait aucune envie d'assister à une exécution, et surtout pas à celle de Manjin. Meylan semblait dubitatif, et de la sueur perlait sur le front d'Arakom, mais ça, c'était peut-être dû à la chaleur. Soudain blême, Colla Verre semblait voir Rand pour la première fois. Berylaine adressa un regard attristé à Beir et à Sorilea, qui hochèrent la tête. Avait-elle prévenu la jeune femme qu'il réagirait ainsi ? En principe, c'était impossible, mais... Les autres exprimaient une palette de sentiments allant de la surprise à la satisfaction, sauf Céland. Oubliant son admiration pour les promises, elle rivait sur Rand un regard de pure terreur. « Eh bien, s'il fallait qu'il en soit ainsi... »«
Je vais d'ailleurs partir sur le champ, »
annonça Rand. Ce qui semblait être un soupir de soulagement collectif monta des rangs des Théariens et des Kairieniens. Rand ne fut pas vraiment étonné que tout ce petit monde l'accompagne jusqu'à la pièce réservée à ses déplacements. À l'exception notable de Berylaine, les promises et les boucliers rouges tinrent à distance les nobles des terres mouillées. Les Aiel n'aimaient pas que les Kairieniens approchent de leur caracarne, et en ce jour très particulier... Rand se réjouit qu'il frappe les Théariens du même ostracisme. Il y eut beaucoup de regards rageurs, mais personne n'osa dire quoi que ce soit au seigneur dragon. Pas même Berylaine, qui le suivait pourtant de près, marchant au milieu des matriarches et conversant avec Avienda, l'une ou l'autre s'autorisant même un petit rire à l'occasion. Rand en eut les sangs glacés. Berylaine et Avienda qui parlaient ensemble et qui riaient. Devant la porte de sa salle de voyage, Rand s'efforça de ne pas regarder la première dame dans les yeux lorsqu'elle salua d'une profonde révérence.
« J'administrerai le Kairien sans crainte ni favoritisme, et ce jusqu'à votre retour, seigneur dragon. »
Malgré cette affaire avec Manjin, la première dame était-elle venue ce matin afin de prononcer cette phrase devant tous les autres nobles importants ? En tout cas, Sorilea eut un sourire indulgent des plus surprenants. Rand décida qu'il devrait tirer cette histoire au clair. Pas question de laisser les matriarches influencer Berylaine. Les collègues de Sorilea avaient attiré Avienda à l'écart, chacune lui tenant à son tour un petit discours, avec une grande fermeté, semblait-il, même si Rand était trop loin pour comprendre.
« Quand vous reverrez Perrin Aibara, »
ajouta Berylaine,
« faites-lui mes chaleureuses amitiés. Même chose pour Mad Cotton. Nous attendrons impatiemment le retour du Seigneur Dragon. »
mentit Dame Colla Verre, le visage de marbre, sans doute histoire de ne pas en rajouter. Après l'avoir foudroyée du regard parce qu'elle avait parlé la première, Meylan se fendit d'une tirade qui disait exactement la même chose que la phrase lapidaire de sa rivale. Bien entendu, Maringill se sentit obligé de surenchérir, au moins en matière de fioriture verbale. Fionda et Anayela se mirent de la partie, ajoutant des compliments si appuyés que Rand jeta un coup d'œil inquiet à Avienda. Par bonheur, les matriarches mobilisaient toujours son attention.
« Jusqu'au retour du Seigneur Dragon, »
dit Dobrain avec une sobriété louable. Sans cacher leur agacement, Marakon, Geyam et Arakom marmonnèrent quelques mots inintelligibles. Rand fut plus que soulagé de franchir le seuil de sa salle de voyage. Mais ça ne dura pas, car il vit que Meylaine lui avait emboîté le pas, Avienda sur les talons.
« Je dois consulter Baël sur des affaires concernant les matriarches, »
répondit Meylaine quand le jeune homme lui interrogeait du regard. Sur ces paroles lapidaires, elle lança un regard dur à Avienda, dont l'air innocent, tel que la connaissait Rand, cachait sûrement quelque chose. Au naturel, la jeune Aiel pouvait exprimer bien des choses, mais sûrement pas l'innocence. Et surtout pas ce type d'innocence.
« Si c'est votre choix, »
dit Rand. Selon lui, les matriarches avaient saisi au vol la première occasion d'envoyer Meylaine à Kemlin. Pour empêcher Rand de trop influencer Baël,
qui pouvait être mieux qualifiée que l'épouse du chef. Comme Rouark, Baël en avait deux. Selon Matt, ça pouvait être un rêve ou un cauchemar, et il s'avouait incapable de trancher. Sous le regard attentif d'Avienda, Rand ouvrit un portail donnant directement dans le hall d'honneur du palais de Kaemlyn. Un jour, la jeune Aiel avait créé toute seule un portail. Mais c'était dans un moment de panique, et elle n'avait jamais pu recommencer. En cet instant, la lumière seule savait pourquoi, la ligne lumineuse qui tournait sur elle-même semblait lui rappeler ce qui était arrivé ce fameux jour. Les joues rouges, elle cessa aussitôt de regarder Rand, voire de simplement tourner la tête dans sa direction. Grâce au pouvoir, le jeune homme sentait l'odeur du savon aux herbes de l'Aiel, mêlée à celle d'un parfum léger qu'il ne se souvenait pas d'avoir capté sur elle. Pressé pour une fois de se couper du Saïdin, il fut le premier à débouler dans le hall d'honneur des airs. Alana revint en force dans son esprit, sa présence aussi palpable que si elle avait été en face de lui. Elle avait pleuré, sentit-il. Parce qu'il était parti? Eh bien, qu'elle pleure donc. D'une manière ou d'une autre, il allait devoir se libérer d'elle. Qu'il soit passé le premier n'était pas du goût des promises et des boucliers rouges, bien entendu. Alors Courienne se contenta de grogner et de secouer la tête, Souline, blanche comme un linge, vint se camper devant Rand, dressée sur la pointe des pieds afin de le regarder dans les yeux.
« Le grand et puissant Karaka m'a confié son honneur au Fardaris, Maï !»
siffla-t'elle.
« S'il venait à mourir alors qu'elle le protège, par exemple en tombant dans une embuscade, les promises n'auraient plus d'honneur. Si le Karakan, ce génial conquérant, n'en a cure, il se peut qu'Enaïla ait raison, et qu'il soit un sale gosse entêté qu'il faut tenir par la main afin qu'il ne tombe pas de la première falaise venue, faute d'avoir regardé où il mettait les pieds. »
Rand serra les dents. En privé, il acceptait des remontrances, moins vigoureuses que celles-ci cependant, à cause de tout ce qu'il devait aux promises. Mais en public, Enaïla et Somara, même elle, ne l'avaient jamais tensé ainsi. L'ourlet de sa jupe relevée, Mélaine avait déjà traversé la moitié de la salle. Apparemment, elle était très pressée de rétablir l'influence des matriarches sur Baël. Ourienne avait-il entendu? C'était difficile à dire, même s'il semblait concentré sur ses boucliers rouges, leur donnant des instructions tandis qu'ils inspectaient la salle et ses colonnes en compagnie des promises. Le genre d'activité que les Aétan d'or, tous voilés, n'avaient pas besoin d'ordre pour exercer. Les bras croisés et l'air perplexe, Avienda, elle, avait sans nul doute capté la tirade de Souline.
« Hier, tout s'est très bien passé, »
dit Rand à la promise qui le défiait toujours du regard.
« À partir de maintenant, je crois que deux gardes du corps suffiront. »
Les yeux de Souline faillirent jaillir hors de leurs orbites. Le souffle coupé, elle semblait incapable de parler. Après le bâton, Rand allait devoir passer à la carotte, s'il ne voulait pas que l'Aiel explose comme le feu d'artifice d'un illuminateur.
« Bien sûr, ce sera différent quand je sortirai du palais. Là, l'escorte que tu m'as affectée sera utile. Mais ici, au palais du soleil ou dans la pierre de Théar, deux gardes suffiront. »
Rand se détourna avant que la promise ait recouvré sa voix. Avienda marcha à ses côtés tandis qu'il contournait l'estrade où se dressait le trône afin de gagner les petites portes dérobées. S'il avait choisi le hall plutôt que ses appartements, c'était avec l'espoir de semer la jeune Aiel. Même sans le Saïdin, il sentait encore son odeur enivrante. Ou était-ce sa mémoire qui le torturait? Quoi qu'il en soit, adorant ce parfum, il aurait donné cher pour avoir un rhume et ne rien sentir. Son châle serré autour du torse, Avienda regardait droit devant elle, comme si quelque chose la troublait. Quand il lui tint la porte d'un des vestiaires, elle entra sans remarquer ce petit geste de galanterie qui l'agaçait pourtant d'habitude, la poussant à demander, par exemple, s'il croyait qu'elle s'était cassé un bras. Quand Rand voulut savoir ce qui n'allait pas, la jeune Aiel sursauta.
« Rien. Souline avait raison, mais... »
Avienda eut un petit sourire.
« Tu as vu son visage? Personne ne l'a plus bouleversé ainsi depuis... Eh bien, depuis jamais, je crois. Même pas Rouark.
Je suis un peu étonné de te voir presque dans mon camp pour une fois. »
Avienda le dévisagea avec de grands yeux, bleu ou vert. Eh bien, Rand aurait pu passer une journée entière à tenter de le déterminer. Mais il n'avait pas le droit de penser à des choses pareilles. Ce qui était arrivé ce jour-là, quand elle avait ouvert un portail, pour le fuir, ne changeait rien. Dans sa situation, il lui était interdit de rêver aux yeux d'une femme.
« Tu me troubles tellement, Randaltor, »
dit la jeune Aiel d'un ton dépourvu d'agacement.
« Parfois, je me dis que le Créateur t'a fait venir au monde uniquement pour ça, me troubler. »
Rand s'apprêta à dire qu'elle avait ce qu'elle cherchait, puisqu'il lui avait souvent proposé de la renvoyer auprès des matriarches, et tant pis si celle-ci se serait simplement contentée de lui fourguer une autre espionne. Mais Jalani et Lia déboulèrent avant qu'il ait pu ouvrir la bouche, très vite suivi par deux boucliers rouges, dont le plus vieux, déjà grisonnant, arborait encore plus de cicatrices sur le visage que l'IA. Rand renvoya Jalani et le multibalafré dans le hall d'honneur, ce qui faillit provoquer une polémique. Pas à cause du bouclier rouge, qui se contenta de regarder son frère d'armes puis de sortir en haussant les épaules, mais de Jalani, qui se dressa aussitôt sur ses argots. Rand désigna la porte qui donnait sur le hall d'honneur.
Le Karakarn attend des Fardar et Ismail qu'elles aillent où il le leur ordonne. Pour les gens des terres mouillées, tu es un roi, Andaltor, mais pas pour les Aiel.
Un rien de bouderie chez Jalani rappela à Rand à quel point elle était jeune.
Quand il s'agit de danser avec les lances, les promises ne te décevront jamais. Mais là, il n'est pas question de la danse.
Sur ces mots, Jalani sortit quand même après avoir échangé un regard avec l'IA. Suivi par la promise et le bouclier rouge, Cassine, un type blond qui le dépassait d'un bon pouce, Rand traversa le palais en direction de ses appartements. Bien entendu, Avienda lui colla également au basque. Et sa jupe volumineuse, malgré ce qu'il espérait, ne l'empêcha pas de tenir le rythme. L'IA et Cassine restèrent dans le couloir quand il entra dans son salon. Une grande pièce avec au plafond une frise représentant des lions et des tapisseries illustrant des scènes de chasse ou offrant à la vue des paysages de montagnes bucoliques. Mais Avienda le suivit.
« Tu ne devrais pas être avec Mélaine ?» lui demanda Rand.
« Pour t'occuper d'affaires de matriarche. »« Non, Mélaine serait très mécontente de m'avoir dans les jambes en ce moment. »
Peut-être, mais Rand, lui, n'en était pas davantage satisfait. Posant le sceptre du dragon sur un guéridon aux pieds sculptés de feuilles de vigne, il défit son ceinturon et l'abandonna sur le moignon de lance.
« Amis et les autres t'ont-elles dit où est Elaine ?»
Un long moment, Avienda resta immobile, l'air impénétrable.
« Elles ne le savent pas, »
dit-elle enfin.
« J'ai posé la question. »
Rand n'en fut pas étonné. Après s'en être abstenu pendant des mois, Avienda, avant de venir pour la première fois à Camelin avec lui, lui avait sans cesse répété qu'il appartenait à Elaine. Pour elle, il en allait ainsi, et ce qui était arrivé entre eux, de l'autre côté du portail qu'elle avait ouvert, n'y changeait absolument rien. En outre, ça ne se reproduirait plus. Là-dessus, elle s'était montrée très claire. Rand était parfaitement d'accord. Et pour le regretter en secret, il fallait vraiment qu'il y ait en lui quelque chose de malsain. Ignorant les sièges rembourrés, Avienda s'assit en tailleur à même le sol.
Elles ont parlé de toi, cela dit. Je me demande bien pourquoi, ça ne m'étonne pas.
Avienda s'empourpra. Rougir n'était pas son genre, alors deux fois dans la même journée.
Elles ont partagé des rêves, et certains te concernaient.
La jeune Aiel s'interrompit pour s'éclaircir la voix, qu'elle avait un peu rauque et étranglée, sembla-t-il à Rand.
Mélaine et Beyr ont rêvé que tu étais sur un bateau.
Après des mois passés dans les terres mouillées, ce mot sonnait encore bizarrement dans la bouche de l'Aiel.
Tu étais avec trois femmes dont elles n'ont pas vu le visage, et il y avait une balance dont le plateau s'inclinait d'abord d'un côté, puis de l'autre. Mélaine et Ami sont rêvés d'un homme qui se tenait près de toi, une dague plaquée sur ta gorge, mais tu ne le voyais pas. Beyr et Amis, elles, t'ont vu couper les terres mouillées en deux avec une épée.
Un instant, Avienda baissa des yeux brillants de mépris sur le fourreau qui reposait à demi sur le sceptre du dragon. Un mépris teinté de culpabilité, puisque c'était elle qui lui avait offert cette épée ayant jadis appartenu au roi Laman, après l'avoir soigneusement enveloppée dans une couverture, afin de ne pas avoir à la toucher.
Elles n'ont pas pu interpréter ses rêves, mais elles pensent que tu sais de quoi il s'agit.
Le premier rêve était aussi obscur pour Rand que pour les matriarches. En revanche, le deuxième semblait limpide. Un tueur avec une dague qu'il ne pouvait pas voir? Un homme gris, à l'évidence. Ayant livré le rame aux ténèbres, pas simplement voué, mais abandonné, ces assassins étaient invisibles, même quand on aurait dû les voir comme le nez au milieu de la figure. Et ils n'avaient qu'une idée en tête, abattre leur proie. Comment les matriarches avaient-elles pu passer à côté d'une chose si élémentaire? Le troisième songe ne posait pas davantage de difficultés. N'était-il pas déjà en train de couper en morceaux des pays? Le Tarabon et l'Arad d'Oman étaient en ruine. Les révoltes en Théar et au Caïrien risquaient à tout moment d'embraser ces nations, et Liliane sentirait très bientôt le poids de sa lame. Et il ne mentionnait même pas le prophète et les fidèles du dragon qui sévissaient en Altara et au Murandi.
Je ne vois rien de mystérieux à deux de ces rêves, Avienda.
Quand il eut précisé sa pensée, la jeune Aiel lui coula un regard dubitatif. Rien d'étonnant. Si des matriarches capables de marcher dans les rêves ne parvenaient pas à interpréter des songes, qui était-il pour le faire?
Qu'ont-elles rêvé d'autre?
Demanda-t-il en se laissant tomber dans un fauteuil.
Eh bien, je peux te parler d'un autre songe, même s'il ne te concerne pas.
En d'autres termes, il y avait bien d'autres rêves, mais elle ne les lui révélerait pas. Dans ce cas, alors qu'elle n'avait pas le don de marcher dans les songes, pourquoi les matriarches en avaient-elles parlé ?
Elles ont toutes les trois eu ce rêve, ce qui le rend très important. La pluie venant d'une coupe. Une coupe entourée de pièges et de chausse-trappes. Mais si les bonnes mains la saisissent, elles trouveront un trésor peut-être aussi précieux que cette coupe. Si ce sont les mauvaises mains, le monde sera condamné. Et pour découvrir la coupe, la clé est de trouver celui qui n'est plus.
Celui qui n'est plus quoi ? Ce point étant sans nul doute bien plus important que le reste.
Tu veux parler d'un mort ?
Avienda secoua la tête, faisant osciller sa chevelure rousse.
Les matriarches n'en savent pas plus long.
À la grande surprise de Rand, Laiel se leva et tira sur ses vêtements, comme les femmes le faisaient sans y penser dans ce genre de circonstances.
Dois-tu...
commença Rand. Dois-tu vraiment partir ? Avait-il failli demander. Mais par la lumière, il voulait qu'elle s'en aille. Chaque minute passée près d'elle le mettait à la torture. Hélas, chaque minute passée loin d'elle était également un calvaire. Mais il devait agir correctement, faisant ce qui était bon pour lui et encore meilleur pour elle.
Avienda, as-tu envie de retourner auprès des matriarches, pour reprendre ta formation ? Il n'y a aucune raison que tu restes plus longtemps avec moi. Tu m'as appris tant de choses que je me sens plus Aiel qu'un Aiel.
Avienda eut un soupir qui disait tout, mais bien entendu, il fallut qu'elle développe.
Tu en sais moins long qu'un gamin de 6 ans. Pourquoi un homme écoute-t-il sa seconde mère davantage que la première ? Et pourquoi une femme en fait-elle autant avec son second père ? Quand une femme peut-elle épouser un homme sans avoir fabriqué une couronne nuptiale ? En quelle occasion une maîtresse du toit doit-elle obéir à un forgeron ? Si tu prends pour Gaïshain une orfèvre, pourquoi dois-tu la laisser travailler pour elle-même un jour pour chacun de ceux qu'elle passe à ton service ? Pourquoi la même chose ne vaut-elle pas pour une tisserande ?
Peu désireux d'avouer qu'il ne savait rien de tout ça, Rand essaya de trouver une réponse lui permettant de sauver la face. Mais Avienda se désintéressa soudain de lui.
« Par moments, le Gieto a vraiment le sens de l'humour. J'en rirais aux larmes si je n'étais pas la cible de cette plaisanterie-là. Mais je ferais face à mon taux. »
Même si Avienda parlait toute seule, Rand lui répondit, très prudemment.
« Si tu fais allusion à l'Anfear, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, mais Moiraine. Elle est morte pour nous sauver tous. »
L'épée de Laman avait libéré Avienda de l'autre taux qu'elle avait envers Rand, et dont il n'avait jamais compris la nature. La seule obligation dont elle avait conscience. Rand espérait qu'elle ne saurait jamais pour l'autre. Car elle la verrait bel et bien pour une obligation, alors qu'il ne partageait pas cette vision des choses. La tête inclinée, Avienda le regarda avec un petit sourire. Elle s'était reprise en main avec une maestria qui lui aurait valu les félicitations de Sorilea.
« Merci, Randaltor. Beir dit qu'il est bon de s'entendre rappeler de ci de là qu'un homme ne sait pas tout. Fais-moi savoir quand tu voudras te coucher. Je ne voudrais pas venir trop tard et te réveiller. »
Quand Avienda fut sortie, Rand contempla un long moment la porte. Un Kyrienien en train de jouer au grand jeu était en général plus facile à comprendre qu'une femme ne faisant aucun effort pour être mystérieuse. Mais les sentiments qu'il éprouvait pour Avienda, quelle que fût leur nature profonde, ne facilitaient sûrement pas les choses.
« Ce que j'aime, je le détruis, » ricana Loustérine. « Et ce que je détruis, je l'aime. »«
Ferme-la !» pensa Rand, furieux. La voix de démon se tut. Pour sa part, s'il ne savait pas qui il aimait, il savait très bien qui il entendait sauver. De tous les dangers possibles, mais avant tout, de lui. Dans le couloir, Avienda s'appuya contre la porte et inspira à fond pour se calmer. Enfin, pour essayer en tout cas, puisqu'on disait que c'était apaisant. Dans sa poitrine, son cœur continuait à battre comme un tambour. Être près de Rand revenait à s'étendre nu sur des charbons ardents, avec le sentiment que son corps s'attirait au point que ses os risquaient de se briser. En elle, il faisait naître une honte qu'elle n'aurait jamais cru éprouver. Elle avait parlé d'une plaisanterie, et une part d'elle-même désirait effectivement en rire. Si elle avait un taux envers lui, c'était encore plus fort envers Elaine. Après tout, il lui avait simplement sauvé la vie. Sans lui, l'Anfear l'aurait tué, et la rejetée avait eu l'intention de l'éliminer en la faisant beaucoup souffrir. Comme si elle avait su. Comparé à sa dette envers Elaine, ce taux vis-à-vis de Rand était une fourmilière posée à côté de la colonne vertébrale du monde. Accroupie dans le couloir, sa lance sur les genoux, Cassine accorda à peine un regard à la jeune Aiel. Cette Aiel gauchienne, ça se voyait à la coupe de sa veste, ne savait rien, bien entendu. En revanche, Lia sourit à Avienda avec bien trop de chaleur et d'amicale complicité pour quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, et même pour quelqu'un qu'elle aurait bien connu.
À sa grande surprise, Avienda songea que les Tcharines, là aussi la tenue de Lia la trahissait, étaient souvent des petites pestes sournoises. Jusque-là, elle n'avait jamais pensé à une promise comme à autre chose qu'une promise, un point et c'était tout. Randaltor la rendait folle.
« Pourquoi souris-tu, petite ?»
demanda-t-elle pourtant par geste.
« Tu n'as rien de mieux à faire ?»
Lia plissa le front, comme si la situation l'amusait.
« Qui appelles-tu petite, petite ?»
répondit-elle également par geste.
« Tu n'es pas encore une matriarche, mais déjà plus une promise. Je crois que tu fourreras ton âme dans une couronne afin de la déposer au pied d'un homme. »
Entre les Fardar et Ismaï, il n'existait guère de pire insulte. Avienda fit un pas en avant, puis elle s'immobilisa. Si elle avait porté un Cadinsor, Lia n'aurait pas pu lui résister. Avec cette fichue jupe, une défaite assurée. Pire encore, Lia refuserait sûrement de la prendre comme Gaïshine. Ayant été attaquée par une femme qui n'était plus une promise et pas encore une matriarche, elle en aurait parfaitement le droit. Elle pourrait exiger aussi de battre Avienda comme plâtre devant tous les Tardades qu'on pourrait rassembler. Une humiliation moindre que d'être refusée, mais pas de beaucoup. Enfin, qu'elle gagne ou qu'elle perde, Mélaine trouverait sûrement un moyen de lui graver dans l'esprit qu'elle avait renoncé à la lance, un châtiment qui lui ferait regretter que Lia ne l'ait pas roué de coups 10 fois devant toutes les tribus réunies. Entre les mains d'une matriarche, la honte coupait plus cruellement qu'un couteau à écarrir. Lia ne broncha pas, car elle savait tout ça aussi bien qu'Avienda.
« Et à présent, vous vous défiez du regard, »
dit Cassine.
« Un de ces jours, il faudra que j'apprenne votre langage par signe. »
Lia regarda le guerrier et gloussa.
« Tu seras très beau en jupe, bouclier rouge, quand tu viendras demander à devenir une promise. »
Avienda soupira de soulagement lorsque Lia cessa de la fixer. En de telles circonstances, elle n'aurait pas pu détourner le regard sans se déshonorer. D'instinct, ses doigts composèrent la première phase du langage par geste qu'une promise apprenait, parce qu'elle en avait besoin en permanence.
« J'ai un taux. »
Lia répliqua du tac au tac.
« Tout petit, sœur de la lance. »
Avienda eut un sourire reconnaissant, car Lia avait omis de plier le petit doigt, un détail qui aurait tout changé, ajoutant de l'ironie à l'expression « sœur de la lance ». Ainsi accentuée, elle était réservée aux femmes qui avaient renoncé à la lance, mais tentait de se comporter comme s'il n'en était rien. Un domestique déboula soudain dans le couloir. Cachant le mépris que lui inspiraient les gens qui consacraient leur vie à servir les autres, une particularité des terres mouillées, Avienda partit dans l'autre direction afin de ne pas croiser le déprimant personnage. Tuer Randaltor l'aurait libéré d'un taux, et se suicider aurait annulé le second. Mais chaque solution contrariait l'autre, rendant la situation inextricable. Quoi qu'en disent les matriarches, elle allait devoir trouver un moyen de concilier l'inconciliable.